Nous allons parler de l'individualité et de la conjugalité. Et j'ai commencé par un exemple clinique, directement un cas clinique. C'est une jeune fille de 16 ans qui rentre dans mon cabinet, comme c'est fréquent cet âge-là, un peu en opposition avec ses parents. Et donc je lui demande, mais quand tu seras mariée, parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait se marier, que feras-tu quand tu seras en train de te disputer avec ton mari? Elle me regarde d'un air offusqué, elle me dit, c'est pas pareil. Mais qu'est-ce qui n'est pas pareil? Pourquoi ça sera différent avec ton mari? Mais parce que... Et puis là, elle se fait et elle dit, je ne sais pas. Alors évidemment, je suis interpellé par cette réaction. J'approfondis un petit peu pour savoir qu'est-ce qu'elle a voulu dire, le parce que. Et en fait, elle voulait dire, parce que lui, il m'aimera. Sauf que ça veut dire, mes parents, ils ne m'aiment pas. Alors, elle sait très bien que ses parents l'aiment. Du coup, elle n'a rien dit. Qu'est-ce que ça veut dire, cette jeune fille? Ça veut dire qu'elle croit à un amour magique. S'il m'aime, alors tout sera merveilleux dans le meilleur du monde. Qu'une jeune fille de 16 ans rêve d'un amour magique, ça ne me dérange pas du tout. J'ai même envie de dire, c'est plutôt assez normal. Ça veut dire qu'elle est en train de façonner en elle quelque chose de conjugal. C'est plutôt bon signe. Mais vous qui êtes mariés, vous savez que s'il y a de la magie dans l'amour, c'est pas ça qui détermine l'amour dans la durée. Il faut autre chose. Il faut autre chose et c'est de ça dont nous allons parler ce soir. Pour construire cet amour dans la durée, il va falloir que deux individualités s'engagent dans ce qu'on appelle la conjugalité. D'où le titre de la conférence ce soir, individualité, conjugalité. Et nous constatons, avec plusieurs autres thérapeutes de couple, qu'un couple durable, c'est un couple dans lequel vous avez un espace conjugal qui est bien façonné, qui est nourri, et en même temps, vous avez deux individualités bien affirmées, avec aussi deux espaces individuels. Tout cet équilibre qui est particulier entre ces espaces individuels et l'espace conjugal, quelles sont les relations entre tout ça, qu'on va essayer de voir ce soir. Il est évident que sous ce point de vue de l'individuel et du conjugal, on pourrait décrire toute la vie conjugale. Tout se ramène un peu à cette problématique-là. Donc je ne vais pas ce soir vous faire une grande théorie de l'individualité et de la conjugalité. Par contre, en travers de quatre points particuliers, on va parler d'individualité et de conjugalité. Ces quatre points, je les ai choisis à l'expérience de ce que je vis dans mon cabinet, parce que c'est quatre points dont on parle généralement peu dans la vie conjugale. Donc voilà. Je ne prétends pas vous faire une théorie exhaustive de l'individualité et de la conjugalité, mais à partir de cette thématique-là, nous allons aborder quatre points ce soir. Les quatre points, les voici. Le premier, c'est l'autonomie dans la vie conjugale. Le deuxième, c'est ce que j'appelle l'altérité et l'ambivalence, deux qualités qui sont nécessaires. Le troisième, le choix de vivre conjugalement ou la volonté conjugale. Et le quatrième, c'est la souplesse et la tonicité nécessaires à la vie conjugale. Le but de cette conférence, en fait, c'est d'inviter chacun de vous et chacun de nous, parce que moi j'y réfléchis aussi en même temps que je vous parle, à notre vie conjugale. J'aurais réussi cette conférence si vous repartez en vous disant, eh bien, dans ma vie conjugale, moi, je dois faire un effort dans tel domaine. Alors attention, je répète, dans ma vie conjugale, je dois faire un effort dans tel domaine, et non pas mon conjoint devrait faire un effort dans tel domaine, parce que ça, vous les connaissez par cœur, les efforts de votre conjoint à faire, ça fait des années que vous lui surinez en pure perte. Donc laissez tomber ça. Ce que vous, vous devez changer, bien sûr. Comme les autres conférences, il y aura donc des cas cliniques. Les cas cliniques, ils sont tels quels, je n'ai rien modifié dessus, si ce n'est des choses annexes, de façon à masquer l'identité des personnes. Mais quand je rapporte des paroles, ce sont les paroles exactes qui ont été prononcées, et sur la thématique dont nous parlons, c'est exactement ce qui s'est passé dans mon cabinet. Vous verrez qu'il y a des exemples qui sont assez forts. Donc, le premier point, l'autonomie. Il peut paraître étonnant de parler d'autonomie quand on veut parler de conjugalité. Il y a une apparence de paradoxe, là. Et pourtant, l'autonomie de la personne me semble un préalable à la vie conjugale. Ce n'est pas forcément un préalable qui est réalisé avant de se marier, mais au moins c'est un préalable qu'il faut essayer d'acquérir au plus tôt. Et je vais m'expliquer un petit peu. L'autonomie en psychologie, c'est la capacité à s'assumer soi-même sans peser sur quelqu'un. Ce n'est pas l'indépendance, ce n'est pas l'absence de lien, ce n'est pas l'absence de relation. Je répète, c'est la capacité à s'assumer soi-même sans peser sur quelqu'un. Vous savez que l'éducation, éduquer, ça vient du latin ex ducere, conduire à l'extérieur. Conduire à l'extérieur, c'est-à-dire que le but de l'éducation, c'est l'autonomie de la personne. Qu'elle soit conduite à l'extérieur de la famille, qu'elle n'ait plus besoin de la famille pour vivre. C'est ça, éduquer. Donc l'autonomie, ça s'acquiert bien sûr petit à petit, tout au long de l'enfance et tout au long d'une éducation sainement donnée. Elle s'accentue fortement à partir de l'adolescence pour être normalement effective à l'entrée de l'âge adulte. Mais c'est malheureusement pas toujours réalisé. L'autonomie ne supprime pas le besoin de l'autre. Elle permet de vivre sans faire peser sur autrui nos lacunes, nos manques, etc. Mais ça veut dire qu'on s'isole, pas du tout. C'est donc pas l'indépendance, vous l'avez bien compris. Ça veut dire que nos lacunes, où nos déficiences vont trouver une voie d'expression auprès de l'autre, mais une voie d'expression qui n'est pas handicapante, qui n'est pas gênante pour autrui. S'assumer soi-même, ça s'apprend normalement avant de se marier. Je vais vous prendre tout de suite un petit exemple. Puisqu'on est entre gens mariés, on va parler simplement. Vous savez que l'homme est habité de tensions sexuelles fortes. On appelle ça la pulsion sexuelle. Même chez l'adolescent masculin, c'est quelque chose, il y a toujours peur, ça le déborde complètement, tellement c'est puissant. La virilité, ça consiste pour un homme à maîtriser à minima cette pulsion sexuelle, cette tension sexuelle, de façon à ce que ne le gêne pas son conjoint. Et un homme viril, c'est un homme qui va pouvoir mettre cette force qui est en lui au service de son couple, pour aider à créer une vie intime intense entre les conjoints. Ça ne va pas être du tout quelque chose qu'il va faire subir à son épouse, qui va peser sur lui. Vous voyez la différence là aussi. La virilité, ça consiste à s'assumer dans ce que l'on est. Ça ne consiste pas à détruire ce que l'on est. Ça consiste à l'assumer sans le faire peser sur autrui. Mais au contraire, à l'assumer pour en faire profiter le couple, pour en faire profiter quelque chose. Alors, les composantes de l'autonomie en psychologie. D'abord, il y a la liberté. La liberté, ça fait partie des composantes de l'autonomie psychologique. La liberté, c'est la capacité à poser un choix et rendre celui-ci effectif. Être autonome, c'est donc avoir acquis cette capacité à poser un choix libre. Je rappelle qu'il ne peut pas y avoir de mariage s'il n'y a pas de choix libre. C'est même une condition de validité du mariage. Par conséquent, il faut avoir conquis cette liberté. Et comme en plus, le mariage, l'amour est quelque chose qui se vit au quotidien, c'est-à-dire que quotidiennement, il faut pouvoir renouveler librement cet acte, ce choix que l'on a fait. C'est-à-dire que la liberté perdure dans le mariage. Elle perdure, j'ai envie de dire, elle se réalise dans le mariage justement parce qu'on continue ce choix que l'on a fait. Donc premier point, dans la capacité psychologique à être autonome, la liberté. Celui-là est assez simple, j'insiste pas. Le deuxième point, je vais peut-être revenir un peu plus dessus parce que ça c'est plus complexe, assumer ses lacunes. Assumer ses lacunes, ça veut dire ne pas attendre de notre conjoint qu'il vienne combler nos mal-être, nos manques. Ça c'est l'attitude de l'enfant. L'enfant qui attend que ses parents viennent combler ce qui ne vient pas en lui. Et c'est ce que font les parents pour l'aider. Mais une fois qu'on est adulte, on n'a plus cette attitude-là. Être adulte, c'est pouvoir se dire, c'est à moi d'assumer ça maintenant. Quelle que soit l'éducation que j'ai reçue, quelle que soit la façon dont j'arrive à l'âge adulte, maintenant, c'est à moi d'assumer ça. Certainement pas à mon conjoint de le faire. L'autonomie affective aussi, elle consiste à s'assumer dans son état. Alors c'est plus compliqué l'autonomie affective, ça consiste à s'assumer, mais effectivement, l'affection, c'est la relation avec les autres. C'est-à-dire qu'on va bien expliciter ce que c'est que l'autonomie. Vous savez que l'affection est une nourriture qui est indispensable pour chacun de nous. Nous avons besoin quotidiennement d'affection. On ne peut pas vivre sans. Notre psychologie, en tout cas, s'étiole complètement si elle n'est pas nourrie à minima d'affection. Eh bien, l'autonomie affective, ça va consister à créer autour de soi un réseau d'amitié, un réseau de personnes, y compris le mariage d'ailleurs, dans lequel on va se nourrir, mais sans épuiser quelqu'un, sans épuiser une personne en particulier. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre dans cette vie affective qui doit se créer. Et ce point-là est important. Plus particulièrement, pour atteindre cet état d'affection quand on est à l'orée du mariage ou prêt de se marier, il ne faut plus dépendre de ses parents au plan affectif. Vous savez que l'enfant, il dépend totalement de ses parents au plan affectif. C'est ses parents qui le nourrissent. Il faudra être capable de se nourrir par soi-même au plan affectif. Et il ne faut pas tenir non plus une fonction affective auprès de ses parents. Ses parents, parfois, qui eux n'ont pas acquis leur autonomie et qui s'appuient sur un des enfants et qui ils essayent de garder toute leur vie cet enfant un peu comme une béquille. Et ça, il faut savoir se dégager de ça, bien sûr. Si l'un des conjoints n'a pas acquis cette autonomie dont je viens de vous parler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'appuyer sur l'autre comme on s'appuie sur une béquille. Et là, vous avez une relation qui est figée, parce que si celui qui sert de béquille se retire, ça s'écroule. C'est-à-dire qu'ils sont figés dans cette attitude-là. Et ça ne va pas du tout. Dans les thérapies conjugales que je fais, je constate que de nombreux problèmes sont liés à cette question de l'autonomie. Si l'un des conjoints s'appuie sur l'autre comme sur une béquille, là, comme je viens de le montrer, la relation devient vite insupportable. Et le conjoint sur lequel on s'appuie, au début, il est flatté, ça lui donne un rôle, ça lui donne une fonction, c'est pour ça qu'il se prête au jeu, c'est pour ça que quelque chose de malsain se met en place. Mais en fait, au bout d'un moment, ça devient trop pesant. Il n'a qu'une envie, c'est de partir, et en même temps, en partant, il a l'impression de trahir. Donc il est dans un dilemme épouvantable, au bout du compte, généralement, il finit par s'écarter quand même. Et plus il tend à s'écarter, plus le premier tend à s'accrocher à lui, parce qu'il sent qu'il va s'écrouler. Et donc, vous avez des nœuds énormes qui se créent entre les conjoints et qui perdent toute souplesse conjugale. J'ai un petit cas clinique, là, à vous montrer. C'est un qui vient me voir en proie à de vives tensions entre eux. Et je m'aperçois que la relation entre eux est complètement paralysée, complètement figée. Ils sont tous les deux dans des comportements stéréotypés. Lui reproche à sa femme de ne plus l'aimer et de le repousser sans arrêt. Elle ne comprend pas ce qui se passe, mais elle trouve son mari insupportable, au sens propre du mot. Et plus elle devient indépendante, plus il tend à s'accrocher à elle. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Comme je fais habituellement, j'ai exploré un peu qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance de ces personnes. Et je m'aperçois que chez le mari, il avait une mère fusionnelle. C'est les mères fusionnelles. On s'accroche à la personne, on a la même idée, la même pensée, les mêmes émotions, on vit tout à l'unisson. Et donc, cet homme, sans même s'en rendre compte, avec cette première femme qu'il a connue, qui est sa mère, avait pris l'habitude d'une relation au féminin, une relation fusionnelle. Et quand il s'est marié, bien évidemment, il a reproduit le schéma. Et donc, quand ça va pas, il va faire des grands câlins avec sa femme. Donc au début, sa femme était très contente de le materner un peu, sauf que maintenant qu'elle a des gamins, c'est plus son mari qu'elle veut materner. Elle attend de choses de son mari, c'est ses enfants qu'elle veut materner. Et là, ça va plus du tout. Et là, tout le travail thérapeutique, ça a consisté à faire prendre conscience à cet homme qui n'avait pas conquis son autonomie affective. Qu'il avait une attitude d'enfant envers sa femme, qui était la même attitude qu'il avait envers sa mère, et qu'il avait donc tout un travail à faire. Ce qu'il a fait, on a travaillé que ça. Et tout s'est remis en place tranquillement, et la vie conjugale a retrouvé cette souplesse qu'elle avait. J'admire d'ailleurs cet homme qui a pu modifier son comportement à ce point, je trouvais ça assez admirable. Donc vous voyez que cette question de l'autonomie, c'est un point qui est capital dans la relation. Elle tend, s'il n'y a pas d'autonomie, la relation va se figer, va se crisper, va s'ankyloser complètement. Elle va perdre tout ce dynamisme, toute cette souplesse dont on va parler tout à l'heure. Dans le cas clinique que je viens de citer, je voudrais faire remarquer un point. Vous avez remarqué que ce progrès conjugal énorme a été réalisé par un progrès personnel. Et ça, c'est une constante dans toutes les thérapies que je donne. À chaque fois qu'il y a un progrès personnel, il y a un progrès conjugal. Ou à chaque fois qu'il y a un progrès conjugal, il y a des progrès personnels. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que, et je vais revenir dessus plusieurs fois dans cette conférence, ça veut dire qu'il y a un lien entre nos progrès personnels et nos progrès conjugaux. C'est-à-dire, en ce sens, on comprend bien que le mariage est bien une voie de sainteté, est bien une voie de progrès, est bien une voie d'épanouissement pour l'individu, puisque l'un entraîne l'autre. Et ça m'émerveille, non, parce que je vois ça quasiment dans tous les couples qui viennent me voir. C'est toujours très impressionnant. Je vais parler donc de l'autonomie un peu comme un préalable au mariage. Je vous parle maintenant de l'autonomie dans le mariage même, comment concrètement ça se vit. Et c'est quand même un peu étonnant. Vous prenez deux jeunes gens là qui sont bien autonomes, ils vont se mettre ensemble. Et justement, il va falloir que la première chose qui est bouleversée, c'est leur autonomie, mais il va falloir qu'ils conservent quelque chose de cette autonomie. Par rapport au cas clinique que je viens de vous donner, de cet homme qui avait quelque chose de fusionnel avec sa femme et qui fait que ça ne marchait pas, l'union conjugale, ce n'est pas la fusion. L'union, c'est deux êtres bien identifiés qui se rapprochent, mais qui restent distincts l'un de l'autre. Ils restent distincts s'il leur permet de s'unir, justement. Mais même dans l'union, ils restent distincts l'un de l'autre s'il leur permet de s'enrichir. Dans la fusion, c'est totalement différent. Vous avez deux êtres différents qui s'approchent et puis ces espèces se fondent l'un dans l'autre dans une espèce de conglomérat commun. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'il y a perte de l'individualité dans la fusion. L'union conjugale n'est pas une fusion. La fusion, ça ne tient pas parce que l'individualité étant niée, au bout d'un moment, soit elle se révolte, soit vous avez affaire à quelqu'un qui n'a plus de personnalité, si vous voulez. Donc ce n'est pas ça le mariage, bien sûr. Parce que les personnes restent distinctes, chacune va pouvoir apporter quelque chose de différent à l'autre. Et c'est ça l'enrichissement mutuel. Dans la fusion, il n'y a plus d'enrichissement mutuel. Tout le monde doit vivre au même diapason, même pensée unique, sentiment unique, émotion unique, etc. C'est pas du tout un enrichissement, ça. C'est de l'inverse d'un enrichissement, c'est une castration de chacune des personnalités. Donc déjà, c'est un point important. C'est l'autonomie doit être conservée dans le mariage parce que pour que les deux individualités puissent se manifester. Deuxièmement, sur cette union de deux personnes, l'union, c'est quelque chose de dynamique. Quand deux personnes sont en équilibre, alors elles peuvent s'approcher l'une de l'autre, s'unir, puis de nouveau s'écarter et de nouveau se rapprocher. À chaque fois qu'elles s'écartent, elles créent un désir de l'une envers l'autre, ce qui les tend à se rapprocher. Et quand elles se sont bien rapprochées jusqu'à l'union, il y a un désir de réaffirmer son individualité, elles se réécartent de nouveau. Et c'est ça la vie conjugale, c'est cette espèce de respiration permanente, d'approche, de rapproche et d'éloignement sans arrêt. Ce n'est pas du tout quelque chose de figé, c'est quelque chose de très dynamique. Et c'est parce qu'on est autonome, parce que les deux individualités sont bien marquées, que ce jeu dynamique de respiration peut avoir lieu. À chaque fois que les choses commencent à se stratifier, à se devenir statiques, vous pouvez vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie conjugale. Deuxième point qui est compliqué, dans la vie conjugale, il ne faut jamais porter la difficulté de l'autre. Ça, c'est un point clé. Ne pas porter la difficulté de l'autre, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être en empathie avec son conjoint. Mais il s'agit de ne pas porter ce qui lui revient. À l'inverse, j'ai envie de dire, chaque personne qui s'assume et porte elle-même sa faiblesse devient capable d'une relation conjugale avec cette faiblesse. La faiblesse n'est plus une entrave, justement. Tous nous avons des lacunes, nous avons des faiblesses, nous avons des manques. Mais si nous attendons que notre conjoint vienne les combler, alors nous sortons d'une relation conjugale pour faire assumer à notre conjoint une relation de parent-enfant. Je suis clair là-dessus, c'est très important. La relation conjugale n'est pas une relation de parent-enfant. par enfant, c'est les parents qui assument les manques de l'enfant. Dans la relation conjugale, chacun s'assume avec ses manques. Le soutien mutuel ne consiste pas à porter le problème de l'autre. Le soutien mutuel, ça consiste à créer autour de son conjoint une ambiance telle qu'il va mieux pouvoir porter sa difficulté, mais pas à la porter à sa place. Porter quelque chose à la place de son conjoint, ça revient à le déresponsabiliser. Il ne va plus le faire lui-même puisqu'on le fait à sa place. J'ai exactement la même chose dans mes thérapies. Je ne porte jamais le problème des personnes qui viennent me voir. Sans ça, elles vont s'appuyer sur moi en toute confiance et il ne va rien se passer du tout. Non, je leur renvoie leur problème, c'est à elles de l'assumer, c'est à elles d'en faire quelque chose. Et bien c'est pareil dans la vie conjugale. Alors je vais vous donner un petit cas clinique pour vous expliciter tout ça. Ça s'est passé dans mes premières thérapies conjugales, je manquais un peu d'expérience. Je peux déjà vous le dire, ça a été un échec, mais c'est pas l'important, c'est de voir pourquoi. Vers la troisième ou la quatrième séance, l'épouse m'explique que leur mariage est une erreur de casting, ils auraient mieux fait de pas se marier, ils sont pas du tout faits l'un pour l'autre, mais maintenant qu'il y a des enfants, ils sont bien embêtés parce qu'ils peuvent pas se séparer. Son problème, dit-elle, son mari est resté un grand ado. C'était hyper sympa quand ils étaient jeunes fiancés, quand ils étaient jeunes mariés, mais maintenant qu'elle est gamin, c'est un mec qu'elle a envie à côté d'elle, pas d'un enfant de plus. Or lui, il continue à faire l'ado. Je suis obligé de tout lui dire, il fait toutes les choses à moitié, c'est insupportable. Et à ce moment-là, je ne sais pas si elle va se mettre à pleurer ou ça va piquer une énorme colère. Mais manifestement, elle est bouleversée de d'émotion. Alors elle commande la longue litanie des griefs contre son mari, certainement vrai. Les chèques sans provision, les réservations pour les vacances qu'il a bien entendu oublié d'effectuer. Elle a passé une matinée complète à rattraper le coup. Le samedi après-midi qu'il est chez un ami, alors que pendant que son aide se tape toutes les conduites de Louveteau, de Louvette, etc. Sa fille même qu'il a oublié d'aller chercher après son cours de danse, enfin, etc. Alors j'interroge un petit peu le mari, qui me dit, écoutez, pauvre monsieur, mais c'est une angoissée de première, ma femme, c'est pas possible. Si on ne fait pas les choses exactement comme elle le veut, ça ne va pas. Faut sans arrêt se plier à ces trucs, elle est insupportable. De toute façon, quoi que je fasse, ça ne sera jamais bien, donc basta, quoi. Quant à ma fille, c'est vrai, j'avais 25 minutes de retard, mais enfin bon, ça peut arriver. En fait, ils ont tous les deux raison quand on les écoute. Le mari, effectivement, a souvent ce comportement un peu irresponsable de l'ado. Et madame, effectivement, est une angoissée, qui est toujours une espèce de pile électrique. Il faut toujours que ça se passe à toute vitesse comme elle l'a décidé, autrement ça va pas. Mais ce qui est important ici, c'est ce qui se passe entre eux. Madame s'exaspère de son mari, monsieur s'exaspère de sa femme. C'est-à-dire que chacun cherche à corriger l'autre. C'est-à-dire que madame passe son temps à houspiller son mari pour qu'il fasse les choses comme il fait, comme elle le veut. Et comme il ne les fait jamais comme il faut, elle est toujours derrière à rattraper le coup. C'est pas étonnant qu'il soit un ado, lui. Dès qu'il fait une bêtise, elle rattrape toujours les choses derrière. Il se rend jamais compte de rien. Il peut même pas se rendre compte que ça ne va pas. Et puis au bout d'un moment, il est complètement démissionnaire, évidemment. Et lui, avec cette espèce de pile électrique qui l'exaspère, il cherche à surjouer la décontraction. Pour dire, mais lâche-toi aller, fais comme moi, tu verras, tout ira bien. Et vous comprenez qu'en fait, ils ne font chacun qu'empirer leurs défauts. Le défaut de leur conjoint. Et c'est ça qui se passe. Effectivement, monsieur est un ado attardé. Mais plus sa femme le houspille et cherche à le corriger de là-dessus, moins il peut le corriger lui-même. Et effectivement, cette femme est une angoissée, elle n'arrive pas à lâcher prise. Mais plus il surjoue la décontraction, plus il la renvoie dans son propre défaut. Et c'est ça le point clé que je voulais vous signifier. À chaque fois que nous cherchons à porter ou à nous responsabiliser sur une lacune dans notre conjoint, nous empêchons notre conjoint d'assumer son manque, d'assumer sa propre responsabilité. Le travail thérapeutique avec eux, ça a consisté à leur faire comprendre qu'au lieu de porter le problème de leur conjoint, il fallait que chacun porte le sien. Bon, ça a été un échec parce que sincèrement, je crois que j'étais pas encore assez compétent pour faire ce transfert, faire comprendre aux personnes qu'il fallait arrêter de vouloir changer son conjoint, mais vouloir se changer soi-même. Ça demande un peu de technique de faire ça et je me suis planté. Bon, au bout d'un moment, ils ont arrêté de venir me voir, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Mais le point clé que je voulais vous signifier, parce que ça m'a beaucoup fait réfléchir dans les premières thérapies, c'est qu'à chaque fois que nous portons le défaut ou une lacune de notre conjoint, nous l'empêchons de régler ce problème. Et à chaque fois qu'au contraire, on le laisse porter son problème, mais en créant autour de lui un environnement qui soit favorable, on l'aide à résoudre ce problème. Bon, pour conclure sur l'autonomie. Être autonome, c'est donc pas un état d'indépendance, mais un état de responsabilité sur soi-même. Je m'assume moi-même, je me maintiens en équilibre avec mes manques. Partant de là, deux conjoints qui sont chacun en équilibre peuvent se permettre de se rapprocher et de s'unir en restant en équilibre et de s'écarter et de se rapprocher à nouveau. L'équilibre est toujours préservé puisque chacun d'eux est en équilibre. Alors un équilibre conjugal va pouvoir se créer. Toute manifestation de rigidité, les choses commencent à s'enquiloser dans le couple, vous pouvez être sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il tente de remettre du mouvement, il remet de la souplesse, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Mon deuxième point maintenant, l'altérité et l'ambivalence. Alors, en tout début, pour une introduction pour le président, l'altérité, c'est le sens de l'autre, considéré comme différent et respectable, ayant lui aussi une vie intérieure. Bon, à l'évidence, tout le monde comprend que l'altérité, c'est une condition de la relation. et donc spécialement une condition de la relation conjugale, bien sûr. L'ambivalence, c'est un peu plus compliqué. L'ambivalence, c'est le sens du paradoxe ou de la contradiction qui réside en chacun de nous. Plus simplement, l'ambivalence peut être vue comme le sens de la nuance qui existe en chacun de nous. Elle permet de considérer son conjoint sans illusion ou sans désillusion non plus. J'ai reprécisé tout ça maintenant. Alors, l'altérité d'abord. Le manque d'altérité dans la vie conjugale, c'est de vouloir conformer son conjoint à ce qu'on attend qu'il soit sans se soucier de ce qu'il est. C'est un petit peu, si vous voulez, la princesse idéale qui sommeille un peu dans l'esprit de chaque homme. Comtesse dans son salon, bourgeoise attentionnée pour tout ce qui concerne l'ordre de la maison, cuisinière de talent, bien sûr, nounou irréprochable avec les enfants, sorte d'être un peu asexuée pour lui servir de compagne sportive, un petit peu moins forte que lui quand même, pour lui permettre d'un peu d'assurer sa suprématie. Et à l'inverse, j'ai envie de dire experte au lit, bien sûr. Le problème, c'est qu'un tel être idyllique, ça n'existe pas. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est beaucoup moins riche qu'une femme. Une vraie femme. Mais tous, nous avons un petit peu ces êtres imaginaires, fantasmés en nous. De même, un homme, c'est pas une espèce de chevalier servant qui est là pour vous rassurer, vous offrir des fleurs et vous complimenter, c'est autre chose. Oui, ça peut faire ça, mais c'est autre chose. Donc il faut renoncer à ces êtres de rêve qui nous habitent. C'est ça l'altérité. Il faut renoncer à vouloir conformer notre conjoint à ce que nous voulons qu'il soit. Il est ce qu'il est, c'est pas ce que nous attendons exactement. Et c'est bien mieux comme ça. Cas clinique d'un homme qui n'avait pas d'altérité. C'est un jeune couple qui est venu me voir. Elle est fragile psychologiquement. Elle a une maladie psychologique qui va se soigner et qu'on a soignée. À la fin, elle va beaucoup mieux. Ils ont 12 ans d'écart. Lui est plus âgé. Lui, il a une mère un petit peu écrasante et autoritaire qui lui faisait peur dans son enfance. Moyennant quoi, il a peur de la femme. La femme peut être angoissante, lui. Et vous savez, quand un homme a peur de quelque chose, il cherche à contrôler. Donc déjà, vous sentez qu'il va essayer de contrôler un peu sa femme. Elle n'a jamais réussi à établir une relation adulte avec son père. Au contraire, plus elle fait l'enfant, plus elle arrive à séduire son père. C'est-à-dire qu'elle, le premier homme de sa vie, son père, elle a établi une espèce de relation où elle joue la gamine, elle joue l'enfant, et finalement ça marche assez bien avec son père. Du coup, quand elle va se marier, elle va refaire la même chose. Et donc, vous voyez très bien, les deux caractères là qui s'embrayent bien l'un avec l'autre, la différence d'âge et tout, monsieur devient le papa et elle c'est la petite fille. Monsieur, en plus, lui, il est du personnel médical, sa femme est malade, ça tombe bien, il la soigne, et elle... C'est le malade docile. Et donc, vous avez nettement une relation de domination, une relation de soumission de l'autre côté. Or, dans les premières années de mariage, madame va évoluer. D'abord, les soins pour sa fragilité psychologique vont lui permettre de sortir de cette fragilité. Donc, elle va complètement résoudre son handicap. Et puis, parallèlement, au cours de la thérapie que nous sommes en train de faire, elle prend de la maturité. Elle se rend compte que oui, effectivement, elle a une relation de gamine et que ce n'est pas une relation de femme adulte. Et qu'il est temps qu'elle change, il est temps qu'elle se positionne comme une adulte auprès de son mari. Et du coup, la relation qui n'a jamais été très simple entre eux va se détériorer énormément. Et au bout d'un moment, je leur dis, bon écoutez, vu l'état où vous en êtes, maintenant, vous avez trois possibilités. La première, vous transformez cette relation de père-fille en une véritable relation conjugale, c'est-à-dire que tous les deux, vous avez un gros travail à faire, mais c'est possible. La deuxième, si c'est trop difficile pour le moment parce que c'est explosif, eh ben vous séparez quelque temps de façon à ce que le soufflet redescende, mais je vous préviens, une séparation, c'est dangereux. On ne sait jamais où ça nous mène. Donc, gardez ça en dernière extrémité. Et puis, d'une façon provocante, en troisième solution, je leur dis, madame, vous redevenez malade. Comme ça, vous retrouvez la relation d'avant. Et je demande laquelle vous choisissez. Et là, monsieur spontanément répond, il faut qu'elle redevienne malade. Incroyable. Et évidemment, ça lui a échappé. C'est son inconscient qui parle là. Mais quand son inconscient parle, il signifie qu'il n'a aucune altérité, cet homme. Il ne pouvait voir sa femme que comme un être docile, sur lequel il pouvait dominer, qu'il pouvait... Bref, un être qui ne soit pas dangereux pour lui. C'est un manque complet d'altérité. Alors, c'est excessif comme exemple. Mais il est vrai, ça s'est passé dans mon cabinet. Vous comprenez, pour cet homme, son épouse est là pour répondre à son angoisse, pour le rassurer par rapport à son angoisse. Il n'assume pas du tout son angoisse. Comme il ne l'aime pas, il veut absolument conformer son épouse à ce qu'il attend qu'elle soit. Donc, manque complet d'altérité. Et deuxième point qui est lié à ce manque d'altérité, quand son épouse commence à évoluer, alors là, ça le panique complètement. Et le coup prend dans une grave crise. C'est-à-dire que comme son épouse doit se conformer à ce qu'il attend d'elle, il lui interdit aussi toute évolution. Et c'est ça, le manque d'altérité. C'est qu'on veut conformer notre conjoint à un comportement stéréotypé dans lequel on lui interdit toute évolution naturelle, parce que chacun de nous, nous évoluons, nous épanouissons nos qualités, nous restons le même, mais nous changeons des choses en nous. Donc vous voyez que ce manque d'altérité, cet exemple montre quand même la gravité de ce que c'est. À la lecture de cet exemple, vous pouvez vous dire, ça me guette pas moi, je suis pas prêt d'en arriver là, heureusement, j'espère. Mais attention, on peut tous revisiter nos vies, tous, d'une certaine façon, nous manquons d'altérité. Tous, nous avons tendance à vouloir conformer notre conjoint à ce que nous attendons de lui, et non pas à le respecter et à l'accepter tel qu'il est dans sa différence. Or c'est ça la vraie richesse. Donc je vous laisse y réfléchir un petit peu quand même. Voilà pour l'altérité. L'ambivalence maintenant. De mon point de vue, un des plus beaux exemples de l'ambivalence humaine, pour nous chrétiens, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, moi en tout cas me parle beaucoup, nous sommes tous pécheurs et appelés à la sainteté. Et nous arriverons tous là-haut pécheurs. C'est pas un paradoxe ça quand même, d'être appelé à la sainteté et d'être pécheur en même temps. Moi je trouve ça un paradoxe énorme. C'est le paradoxe de toute notre nature humaine. Avec toute la filiation du péché originel derrière. Et c'est ça l'ambivalence, c'est comprendre cette contradiction de l'humain. Tous nous avons des qualités et des défauts. Tous nous avons des attitudes héroïques et en même temps des attitudes de pauvres gens. Nous avons les deux en nous. Et c'est ça l'ambivalence. L'ambivalence, c'est accepter ça. C'est accepter que mon conjoint ne soit pas un être parfait, ni un être complètement rabaissé. Il soit ce qu'il est, avec toutes ses nuances, avec ses contradictions, avec ses paradoxes, avec ses variations d'un moment à l'autre. C'est accepter que moi-même, je sois comme ça. Et par conséquent, c'est accepter que la relation que j'ai tissée avec cette autre personne qui est ambivalente soit elle-même une relation ambivalente. C'est-à-dire que la relation conjugale, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas de la magie, c'est un truc qui va être à la fois houleux et à la fois bien, qui va avoir des lacunes, qui va avoir de belles choses. C'est humain, j'ai envie de dire, tout simplement. Mais il faut l'accepter, ça. À chaque fois que nous idéalisons notre conjoint, nous faussons le jeu. À chaque fois que nous le... Bon, qu'importe, vous comprenez ce que je veux dire, nous le descendons complètement. Pareil, nous ne respectons pas son humanité, nous ne respectons pas ce qu'il est. Un conjoint, c'est un être ambivalent. De même, nous-mêmes, à chaque fois que nous nous idéalisons, nous nous prenons pour un saint, pour un héros, je ne sais pas quoi, nous nous trompons nous-mêmes. Et à chaque fois que nous nous prenons pour des pauvres types, des moins que rien, nous nous trompons aussi. Nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Nous sommes toujours un entre-deux. À défaut d'ambivalence, la relation va osciller, entre, jusqu'à se détériorer d'ailleurs, entre deux extrêmes de l'euphorie et du désespoir. De l'idéalisation et du dénigrement implacable. C'est toujours un signe inquiétant quand un conjoint est idéalisé ou quand il est dénigré. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les visions qu'on a de lui. L'homme qui vous parle, faites demain, c'est 38 ans de mariage. Je peux, merci, oui, mais non, mais c'est pas pour ça que je vous le dis. Je vous dis ça pour... Mais chose plus étonnante, ça fait 38 ans que je l'exaspère. Et je comprends pas comment un homme charmant comme moi peut l'exaspérer. C'est incompréhensible. Mais nous nous aimons parce que nous ne résumons pas notre relation à ce seul point. Nous essayons de voir ça avec ambivalence. Oui. Quand elle se met en colère contre moi, je n'ai toujours pas compris pourquoi, mais je sais qu'elle m'aime quand même, c'est tout, c'est un moment d'humeur, c'est passager. C'est-à-dire que nous prenons ça avec ambivalence. C'est très intéressant l'ambivalence, ça permet de relativiser énormément de choses. Ça permet d'inscrire le couple dans une continuité de, sur un axe fondamental, j'ai envie de dire, et de laisser passer les errements du quotidien sans leur attacher trop d'importance. Sans ambivalence, alors oui, chacune de ces colères, je peux en faire un truc monumental, quelle injustice pour moi en plus, vous comprenez tous. Mais sauf que je dénaturerai ma relation conjugale. Je suis désolé de citer cet exemple personnel, mais parce que vous comprenez que c'est vécu, je pense que nous vivons tous ça. Hein, c'est important. Un exemple, c'est pas vraiment un cas clinique, c'est un exemple, c'est-à-dire que j'ai vu ça plusieurs fois. Manque d'ambivalence, un des conjoints est idéalisé pour l'autre. Immanquablement, dans mon cabinet, je peux vous dire ce qui va se passer. Celui qui est idéalisé, soit va se créer une deuxième vie à côté, soit va décevoir gravement. Pourquoi ? Quand on est idéalisé, au début c'est hyper sympa, on se prend pour un héros, on se prend drôlement bien, sauf qu'au bout d'un moment, ça devient hyper exigeant d'être idéalisé comme ça. On a un rôle à tenir, on ne peut plus être soi-même. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on se crée une double vie où on peut enfin être soi-même, être comme on est, et être accepté par un autre tel qu'on est. Ou bien alors, on déçoit gravement pour casser cette espèce de processus. Beaucoup d'adultères ont leur explication là. C'est étonnant. Beaucoup d'adultères ont leur explication parce qu'un des conjoints a été idéalisé pour l'autre et que ça devenait insupportable de tenir ce rôle idéalisé. Donc on a cassé le truc par une faute grave. Il y a des solutions meilleures que celle-là, hein, c'est évident. Mais vous comprenez ce que je veux vous signifier par là. Le manque d'ambivalence, c'est un poison dans le couple. Donc vous avez compris que c'est aussi une qualité indispensable à la vie conjugale, cette ambivalence. Hein. Nous n'arrivons pas tous égaux à l'âge adulte en termes d'ambivalence. Il y en a qui, parce que l'ambiance familiale y portait, ont acquis beaucoup ce sens de la nuance et elles vivent bien. Il y en a d'autres pour qui c'est difficile. Tous, nous pouvons progresser sur ce plan-là. Hein. Nul n'est condamné à vivre sans ambivalence. Tous, nous pouvons l'acquérir, nous pouvons progresser petit à petit. C'est quand même très encourageant. Et tous, nous avons besoin de progresser, bien sûr. À titre de conclusion sur l'altérité et l'ambivalence, je vais vous dire ce qui se passe dans mon cabinet. Quand un couple arrive, ce qui est dit parfois explicitement, mais toujours implicitement par chacun des époux, c'est « Regardez, monsieur le psychologue, comme je suis une victime de mon conjoint. Vous, changez-le, moi j'y arrive pas. » Vous comprenez ce manque d'ambivalence, ce manque d'altérité. Et le plus difficile dans une thérapie conjugale, c'est de se faire sortir les personnes de ce piège. « Changez mon conjoint. » La vie conjugale ne s'améliore que lorsque chacun commence à changer sa propre conduite, ce qu'il est. À ce moment-là, on peut mettre quelque chose en route. Mais tant qu'on veut changer l'autre, ça ne marche jamais. Je reviendrai là-dessus parce que c'est un de mes dadas, ça.
Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Aujourd'hui, Marc d'Anselme, psychologue, nous parle de l'amour au quotidien dans le couple. Il était l'invité, il y a quelques semaines, des associations familiales catholiques.
Troisième point, la volonté conjugale, hein, ou le désir d'une vie conjugale. Nous ne sommes ni des anges, ni des bêtes. Il faut donc avoir une volonté d'aimer humainement. Pourquoi ça ? Vous savez, ce qui nous différencie de l'animal, dans le terme de la vie affective, c'est que chez l'animal, il n'a qu'une vie affective qui est réglée par sa corporalité. Et nous, en tant que mammifères, nous avons la même chose. Notre vie affective est réglée par notre corporalité. Mais l'animal est incapable d'amour parce qu'il n'a pas la liberté. Ce qui nous permet d'aimer et qui n'a pas la liberté, c'est cette capacité que nous avons avec les anges d'avoir un esprit libre, de faire un choix. Aimer, c'est choisir librement quelqu'un. Si nous n'aimons qu'avec notre affectivité, nous devenons prisonniers de celle-ci, de ces déterminismes liés à notre corporalité. C'est-à-dire que nous aimons comme des bêtes, nous n'aimons pas. Si nous n'aimons qu'en esprit, c'est ce qu'on appelle un amour angélique, c'est pas du tout un amour humain. L'amour humain, c'est quelque chose de très spécifique, c'est un esprit libre qui a choisi une personne et qui va vivre cette vie avec cette personne, j'ai envie de dire, en incorporant ce choix. Il va le vivre dans sa corporalité, ce choix de la personne, avec toute son affectivité, avec tous les mécanismes de celle-ci. Et donc, il y a donc bien, vous voyez bien, ces deux éléments, l'esprit et la corporalité, l'esprit et la matière, pourrait-on dire, la matière qui est toujours déterminée, l'esprit qui est libre, et dans l'amour humain, il va falloir qu'il y ait les deux. Il faut donc qu'il y ait une volonté, qu'il y ait un choix et une volonté pour concrétiser ce que veut l'esprit, pour le faire vivre dans notre corporalité. Il est donc bon pour les conjoints de mettre leur volonté, leur choix libre dans un certain nombre de domaines dans lesquels ils vont renforcer leur vie conjugale. Et c'est ça dont je voudrais vous parler. Le premier, je pense, le premier domaine dans lequel notre volonté doit s'exercer, c'est de vouloir créer ce que j'ai appelé le domaine conjugal. Pour ceux d'entre vous, puis je sais qu'il y en a, je reconnais un certain nombre de visages qui étaient là quand j'ai parlé des conflits, disputes, etc., j'avais beaucoup insisté sur ce domaine conjugal qu'il fallait construire, qu'il fallait étoffer. J'ai envie de dire, c'est un peu comme une cathédrale, ça. Ça se fait pas tout seul, il faut se retrousser les manches, il faut bâtir quelque chose. Mais c'est une œuvre joyeuse et enthousiasmante. Mais c'est une œuvre libre, c'est-à-dire qu'il faut choisir de le faire, il faut vouloir le faire. Chez tous les couples en difficulté, j'ai toujours vu ce domaine conjugal trop étriqué. Il n'offre pas la ressource pour surmonter une difficulté. Je n'insiste pas sur ce domaine-là, puisqu'on avait parlé donc dans une précédente conférence. Le deuxième point, plus difficile à comprendre, il faut vouloir la complémentarité. C'est pas évident, la complémentarité des sexes, on en parle tout le temps. On dit que la femme est cyclique, que l'homme est linéaire. Mais la complémentarité du cercle et de la droite, faut m'expliquer comment ça se fait. C'est pas si évident que ça. C'est-à-dire qu'au quotidien, il faut vouloir la mettre en œuvre, la complémentarité. Et la complémentarité de toutes nos différences, sans qu'elles soient masculines ou féminines, c'est pas évident non plus. Je vous donne un exemple clinique. C'est une femme qui est assez vive, assez spontanée, qui vit dans l'instant présent avec une grande intensité. J'ai envie de dire, c'est un magnifique papillon ou une belle cigale, cette fille. Quelqu'un, vous voyez, qui est toujours dans l'instant présent, avec beaucoup d'engouement, beaucoup de vivacité. Lui, c'est plutôt un calme, un gars qui laboure profond pour une récolte à 25 ans. Ces gens, vous voyez, un peu processionnels, mais enfin, qui vont au fond des choses. À l'évidence, ils ont une complémentarité magnifique, ces deux-là. Mais allez les faire vivre ensemble. Allez faire vivre la cigale et ce laboureur de fond, là. C'est pas si évident que ça. Ils vont s'exaspérer en permanence au quotidien. C'est-à-dire que la complémentarité, c'est pas si facile que ça. Il faut beaucoup d'altérité, beaucoup d'ambivalence. Et il faut surtout se créer ce domaine conjugal dans lequel on va accepter l'autre tel qu'il est. Chacun de nous va se sentir accepté tel qu'il est, avec ses différences, avec ses incompréhensions, pourquoi pas, mais respecté. Alors oui, là, la richesse va pouvoir se mettre en place. Mais autrement, c'est pas si évident que ça. Donc, le vouloir se compléter, vouloir s'enrichir mutuellement, je pense que ça demande un effort. C'est pas quelque chose de spontané. En tout cas, dans le cabinet, je constate plutôt l'inverse. C'est que nos différences, elles tendent à nous opposer, elles tendent à nous créer des incompréhensions entre nous. Donc il faut beaucoup de bonne volonté, beaucoup de bienveillance pour en faire une richesse. C'est une richesse potentielle magnifique, c'est pas une richesse innée. Troisième point, là je vais m'attarder un petit peu plus parce qu'il est compliqué, mais ça aussi c'est un de mes dadas, hein, c'est vouloir résoudre ses lacunes personnelles dans la vie conjugale. Plus j'effectue de thérapie conjugale, plus je suis impressionné par l'intelligence avec laquelle les conjoints se sont choisis. Dans chaque couple que j'ai suivi, il est possible de mettre en évidence aussi que chacun a choisi l'autre parce qu'avec cette personne précisément, il va pouvoir résoudre quelque chose de personnel. C'est ça ce que j'appelle résoudre nos lacunes personnelles. C'est-à-dire c'est dans la magie qui fait que deux êtres se retrouvent et décident de vivre ensemble. Quand vous leur demandez pourquoi, ils vont donner un tas de raisons rationnelles tout à fait valables, tout à fait justes. Et puis au bout d'un moment, ils vont vous dire « ben je sais pas, mais je sais que c'était lui, je sais que c'était elle ». Ça, j'en suis sûr. C'est-à-dire qu'il y a bien une part inconsciente dans ce choix. Et dans ce choix inconscient, je pense que nous sentons que oui, avec telle personne, je vais pouvoir progresser. On ne sait pas très bien sur quoi, c'est pas précis, mais on sait que c'est elle la bonne personne, c'est elle qu'il nous faut. Et je crois qu'on a raison. En tout cas, je constate dans toutes les thérapies conjugales que je fais que oui, les conjoints sont choisis avec une intelligence étonnante. Je vais vous donner un exemple clinique pour vous faire comprendre ce que je veux dire. Alors, c'est une famille nombreuse, ils sont mariés depuis plus de 20 ans, ils ne peuvent plus se parler sans s'engueuler. Inutile de vous dire que les enfants vont pas bien, hein. C'est dans cette atmosphère de complètement dégradée, ça va pas du tout. Leurs disputes tournent à des colères de plus en plus violentes de part et d'autre, ça peut plus durer, raison pour laquelle ils sont venus me voir. Alors comme à chaque fois, puisque je pars de l'hypothèse, toujours vérifiée, que chacun de nous a des lacunes personnelles à corriger, et ça se joue avec notre conjoint, je vais chercher chacun quelles sont les lacunes personnelles. Et donc nous travaillons, qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance. Et elle, quand elle me décrit sa famille d'origine, elle va surtout parler de sa mère. Une maîtresse-femme qui a su combiner efficacement un métier difficile à sa tâche de mère de famille, alors que le père, pour le coup, était un peu falot. Et lui, comme par hasard, il va me décrire son père aussi comme un homme un peu effacé, qui est toujours un peu à la remorque de son épouse, qui prenait et mettait en œuvre toutes les décisions dans la famille. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux issus de ce qu'on appelle un matriarcat. Matriarcat, c'est ces couples dans lesquels c'est la femme qui est très nettement dominante et l'homme qui est plutôt dans la soumission qui suit derrière. Tous les deux. Et quand ils se sont mariés, ils m'ont dit qu'ils l'avaient fait. Tous les deux dénoncent leur famille d'origine comme ne permettant ni à l'homme de trouver sa place, ni à la femme de s'épanouir dans sa féminité. Il était évident pour eux qu'ils n'allaient pas tomber dans cette ornière, sauf que c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc effectivement, dans cette famille, c'est madame qui dirige tout et monsieur qui est toujours à la remorque. Il est même au chômage, c'est-à-dire que madame fait tourner toute la famille, fait tourner tous les enfants et fait vivre toute la famille. Et en plus, elle passe son temps à gaspiller ce mari inutile qui lui traîne dans les pattes et qui sert à rien du tout. Ce qui rend leur dispute si véhémente, c'est non seulement l'échec conjugal, mais c'est aussi l'échec personnel qui est derrière. Et c'est ça sur lequel je voudrais insister. Et ça, ils ont réussi à le dire petit à petit au cours de la thérapie. Pas au même moment, mais ils ont tous les deux dit cette chose extraordinaire que je vais vous citer. Ce qu'elle reproche à son mari, c'est de ne pas lui permettre de lâcher prise et de faire confiance à un homme et de pouvoir mettre sa douceur auprès des enfants. Elle se rend compte qu'elle ne pourra jamais devenir, se réaliser comme femme tant qu'elle n'arrivera pas à lâcher prise, à être douce avec ses enfants et à s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Il faut qu'elle dirige tout. C'est même tellement angoissant qu'elle me dira « Lâcher prise, c'est comme me jeter dans le vide. C'est impossible, c'est mourir pour moi. » C'est-à-dire vous dire à quel point c'était ancré en elle. Or, à mon point de vue, elle a justement choisi cet homme un peu falot d'apparence. Justement parce qu'elle pressentait que si elle arrivait à lâcher prise avec un tel homme, alors oui, ça pour le coup, elle aurait résolu son problème. Que si elle arrive à s'abandonner et à faire confiance à un tel homme, alors là, elle peut être sûre d'avoir définitivement résolu son problème. Et lui, qu'est-ce qu'il lui reproche? Il va dire à sa femme, tu ne me permets pas de me positionner comme un homme auprès de la famille. Et il va me dire quelque chose de plus extraordinaire, tu fais comme ma mère, tu veux que je reste un enfant. C'est pas extraordinaire cette phrase, c'est tout son problème. Vous voyez bien les deux problèmes personnels de chacun. Vous croyez qu'ils se sont rencontrés par hasard, ces deux-là? Vous croyez que c'est le matriarcat les a pas réunis quelque part, qu'ils n'aient pas quelque chose, chacun d'eux avait quelque chose à régler? C'est ça, les lacunes personnelles à régler. Ils n'en ont pas eu conscience quand ils se sont mariés. Ils ne pensaient pas qu'ils se mariaient pour ça, mais ça participait aussi à leur choix. C'était une passion inconsciente, mais c'était présent. En tout cas, il y a trop d'intelligence là-dedans pour ne pas le voir comme ça. 3 ans de thérapie, très difficile. Même 4 ans de thérapie, parce qu'une fois que ça a commencé à aller mieux conjugalement, les enfants qui filaient doux depuis 3 ans se sont lâchés et ça commençait à être le foutoir de la famille. Donc on a fait une 4e année pour cadrer un peu les enfants. Mais ils ont été très courageux. Elle a lâché prise. Elle a fait confiance à son mari. Elle a réussi. Et lui a pu se positionner enfin comme un homme, ce que son père n'avait jamais pu faire. Et quand on montait de son grand-père non plus, quand on montait de jalousie aussi loin qu'on a pu remonter, jamais un homme dans cette famille n'avait pu se positionner correctement. Il a enfin pu devenir ce qu'il voulait être. C'est ça ce que j'appelle résoudre nos lacunes personnelles. Mais ça, il faut de la volonté. Ça ne se fait pas tout seul. Vous comprenez que ces deux lacunes personnelles qu'ils avaient, laissées en l'état, ben ça tourne au vinaigre. C'est ce qui s'est passé. Pour vouloir résoudre ça, il va falloir s'accrocher, il faut y aller. Et tous, dans notre vie conjugale, nous avons des éléments comme ça. Tous, nous voulons résoudre avec notre conjoint quelque chose. On ne sait pas tous quoi. Moi, je ne sais pas ce que je veux résoudre avec ma femme, mais je sais que je veux résoudre quelque chose. Je ne sais pas ce qu'elle veut résoudre avec moi, mais je sais qu'elle veut résoudre quelque chose. Qu'importe si ça se passe bien, on va le mettre en œuvre si nous progressons au plan conjugal, nous progressons au plan individuel. Si nous progressons au plan individuel, nous progressons au plan conjugal. Ce cas clinique l'illustre encore une fois. Cet extraordinaire lien entre les progrès personnels et les liens conjugaux. C'est-à-dire que ces défauts que nous avons, ces lacunes que nous cherchons avec nos conjoints, en tant que thérapeute conjugaux, je les vois comme des richesses potentielles. Si nous arrivons à retourner les situations, nous en faisons des facteurs de progrès individuels et des facteurs de progrès conjugaux. Mais si nous les laissons en l'état, nous détériorons la relation. Et ça, je vois ça dans tous les couples qui sont venus me voir. Donc je pense que c'est quelque chose qui est universel. Donc, je clôt là ce sujet-là, la volonté de résoudre nos lacunes personnelles avec le conjoint pour le bien conjugal. Quatrième point où doit s'exercer la volonté, c'est mettre en œuvre des interactions conjugales favorables. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que c'est qu'une interaction. Imaginez le coup de feu dans la famille le 18-20 heures. Ça fait 10 minutes qu'il y a le petit qui hurle sur son pot « Maman, j'ai fini !» Vous êtes avec votre belle-mère au téléphone qui ne veut pas vous lâcher parce qu'elle veut absolument pour Noël fêter tel cadeau à son fils, etc. Il y a pendant ce temps-là, il y a votre petite qui est en train de faire des dessins sur votre carnet de chèque et les deux grands qui se disputent. Vous avez complètement oublié que la casserole de nouilles est en train de cramer sur le feu, etc. Et là, rentre le mari. Première version. Le mari ouvre la porte, trébuche sur les cartables d'éthique, sont restés bien évidemment en désordre dans les traits. Mais qu'est-ce que c'est ce foutoir dans cette famille? Et il écrit foutoir avec un B majuscule. Hein, il y en a ras-le-bol, c'est pas possible, etc. Vous pouvez être certain que le repas qui va suivre, ça va être la catastrophe. Les enfants vont être d'une humeur de chien, ça va être la famille va partir en lambeaux. Deuxième version. Le mari ouvre la porte, enjambe avec souplesse les cartables des petits, éteint la casserole de nouilles, le feu sous la casserole de nouilles, et s'approche de la femme en disant « Écoute, je suis passé au coin de la rue, il y avait un fleuriste, je ne t'aurais pas pu résister, tiens, je t'offre ces jolies fleurs. » Vous pouvez être certain que, comme par hasard, le dîner suivant, dans le dîner qui va suivre dans 10 minutes, juste après, les enfants vont être d'une sagesse incroyable, il va y avoir une bonne humeur extraordinaire. Pourquoi? Parce que, dans les deux cas, le mari va déclencher des réflexes dans toute sa famille. Dans l'un, des réflexes d'énervement, des réflexes de colère, des réflexes de... Bref, de tout ce vilain bagage que nous avons tous accumulé en nous. Dans l'autre, il va faire exactement l'inverse. Il va déclencher des réflexes positifs en jouant au contraire sur toutes nos capacités à avoir une relation joyeuse, une relation apaisée, etc. Et tous, nous avons ce pouvoir, j'ai envie de dire quasi magique, de déclencher des réflexes chez notre conjoint. C'est génial ce truc quand même, quand vous repensez à ces exemples. Pourquoi est-ce que nous n'utilisons pas plus ce phénomène de réflexe? Nous sommes des êtres de réflexe et dans la relation, la plupart de nos comportements sont des comportements réflexes. Nous pouvons déclencher chez tout le monde des réflexes. Et dans la vie conjugale, on peut déclencher donc des réflexes positifs. Vous avez compris ce que c'était qu'une interaction? Une interaction, c'est déclencher un réflexe chez l'autre. Et donc il y a des interactions positives et il y a donc des interactions négatives. Mais c'est pas fini. Vous pouvez créer des boucles de réflexes aussi. Quand vous avez déclenché une interaction positive, ce monsieur-là qui offre un bouquet de fleurs à sa femme, bah évidemment que sa femme va lui sauter au cou avec bonne humeur et que ça va être joyeux et tout. C'est-à-dire que sa femme va déclencher aussi chez lui, par ça, le simple retour qu'elle fait, des réflexes très positifs chez lui. C'est quand même hyper sympa d'avoir une femme qui vous saute au cou et qui vous remercie de ce que vous faites pour elle. Et donc vous êtes en train de créer quelque chose de vertueux. Une succession de réflexes vertueux que chacun déclenche chez l'autre. Ça vous parle? On appelle ça en psychologie une boucle vertueuse. C'est-à-dire qu'on va engrener la relation dans quelque chose qui va aller de mieux en mieux. Et à l'inverse, vous avez des boucles vicieuses. On va provoquer un réflexe négatif chez l'autre qui va nous renvoyer quelque chose de négatif, donc on va refaire encore quelque chose encore plus négatif, et on déclenche comme ça des boucles vicieuses. Dans l'exemple que j'avais tout à l'heure, hein, cette dame autoritaire, monsieur qui fait l'ado. Vous voyez tout de suite les boucles vertueuses et les boucles vicieuses. Plus madame est autoritaire, plus son mari fait l'ado. Boucle vicieuse. Au contraire, plus elle l'arrête, plus elle lâche prise, plus son mari peut se positionner comme un adulte et prendre sa place. Plus son mari se positionne comme un adulte, plus elle peut lâcher prise. Boucle vertueuse. Et c'est ça les thérapies conjugales. C'est l'art de substituer aux boucles vicieuses des boucles vertueuses. Mais il n'y a pas besoin de faire une thérapie pour ça. Tous nous devons substituer à nos boucles vicieuses, nous en avons tous dans tous les couples, il y en a, des boucles vertueuses. Voilà, je crois que c'est un point clé, hein, c'est un point qui est capital, ça, pour la vie conjugale. Sauf que ça ne se fait pas tout seul. Ça aussi, il faut y mettre de la volonté, là aussi, il faut y mettre du tonus, autrement on n'y arrive pas. J'en arrive à mon quatrième point, souplesse et tonicité. Et il me semble que c'est une des caractéristiques très fortes de la vie conjugale. C'est une vie hyper tonique, hyper dynamique, qui nécessite sans arrêt de pouvoir s'adapter à des changements. Et donc ça demande beaucoup de souplesse. La souplesse en psychologie, la meilleure comparaison que je puisse trouver, c'est celle d'un muscle. Vous savez qu'un muscle... Un jour, j'ai reçu une danseuse étoile dans mon cabinet. C'est des filles qui ont une tonicité, une souplesse musculaire extraordinaire. Elle était assise dans le fauteuil dans lequel je reçois mes patients avec une décontraction. Je m'étais dit, mais si j'aurais mis un pavé par terre, elle se serait assise avec la même décontraction. Un corps qui s'adaptait à toutes les situations et d'une façon très confortable. Et bien, c'est un peu pareil. Notre psychologie, elle est comme un muscle. Quand le muscle est souple, il est tonique également, il y a du mouvement. Quand il est ankylosé, il n'y a pas beaucoup de force et pas beaucoup de possibilités. Et bien notre psychologie, c'est pareil. Soit elle est souple et elle est tonique, elle peut absorber énormément de choses, soit elle est rigidifiée, elle est ankylosée. Et donc, on va développer un petit peu ça. Je raconte l'histoire d'Ozanam pour ça. Ozanam vivait au 19e siècle. C'est le fondateur des conférences Saint-Vincent de Paul. Il avait pour père spirituel le père Lacordaire. Et Lacordaire espérait bien faire d'Ozanam un prêtre. Or, voilà qu'un jour, Ozanam rencontre une jeune fille qu'il trouve si extraordinaire qu'il la demande en mariage et se fiance. Apprenant cela, Lacordaire a ce mot, il est tombé dans le piège. Quelque temps après, Lacordaire passe à Rome et il a pu avoir une audience avec le pape. Et après les salutations ecclésiastiques en usage, le pape dit à Lacordaire à quel point il est déçu de ne pas partager la même religion. Surprise de Lacordaire qui proteste bien sûr de sa fidélité à l'église, au pape, etc. Et le pape lui réplique, mais comment se fait-il, alors que l'église affirme l'existence de 7 sacrements, vous Lacordaire, vous en appréciez 6 plus un piège. Probablement plusieurs d'entre vous se sont déjà demandé si leur mariage n'était pas un piège. Un des objectifs de cet exposé, c'est de mettre en évidence la qualité psychologique la plus nécessaire pour que le mariage ne soit pas un piège, c'est la souplesse et la ténacité. Le mariage est un piège si on se résigne à la rigidité. A l'inverse, l'épanouissement conjugal et donc l'épanouissement des personnes nécessite de la souplesse et de la ténacité. C'est-à-dire que ces qualités-là me semblent indispensables. Pour ça, il faut que je vous explicite un petit peu ce qu'on appelle les saisons du mariage. Imaginez nos deux jeunes gens là qui ne se connaissent pas, ils ont bien compris qu'il leur fallait être autonomes, ils ont conquis leur autonomie, ça y est. Et là, ils se rencontrent, ça flash, et 9 mois après, ils sont mariés. 1 an après, ils sont mariés. C'est-à-dire qu'ils sont passés d'une autonomie isolée à une autonomie à deux. C'est un énorme bouleversement, hein, c'est pas facile. Et ils sont toujours en train d'essayer de conquérir cet équilibre à deux que tout d'un coup, madame dit à monsieur, je crois que ça y est, j'attends un petit bébé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore réussi à établir l'équilibre à deux, que les voilà en train d'envisager un équilibre à trois. Et la naissance du premier enfant, c'est un chamboulement fantastique. C'est un chamboulement fantastique parce que chez la mère, ça va réveiller tout un tas de qualités qui étaient complètement en sommeil et parfois même totalement méconnues, qui sont toutes les qualités de maternité. Et c'est une extraordinaire chose qu'est la maternité chez une femme. C'est-à-dire que la femme, non pas qu'elle change de caractère, mais il arrive quelque chose de très important en supplément de tout ce qu'elle montrait auparavant. C'est-à-dire que le mari n'avait toujours pas réussi encore à trouver son équilibre avec cette femme qui n'était pas mère. Maintenant, il faut qu'il trouve un équilibre avec une femme qui est devenue mère. C'est pas simple. Et de son côté, vous savez que ce qui change le plus un homme, c'est pas le mariage, c'est la naissance de son premier enfant. Là, il se dit, oulala, la vie, c'est peut-être pas qu'un grand jeu dans lequel je m'amuse bien, maintenant je suis responsable d'un autre. C'est la naissance du premier enfant, c'est un chamboulement énorme psychologiquement pour l'homme. Heureusement que ça dure 9 mois, parce qu'intellectuellement, il faut qu'il se prépare à tout ça, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que lui aussi, il y a quelque chose qui va changer. C'est-à-dire que nos deux jeunes gens, là, ils ont toujours pas trouvé leur équilibre à deux, que déjà, avec la naissance du premier, cet équilibre est complètement chamboulé, complètement modifié. Et le petit bébé, etc., ils sont toujours en train de chercher leur équilibre. Arrive une deuxième naissance, puis une troisième, la constitution d'une fratrie. Comment trouver son équilibre à deux face à toute une fratrie? C'est pas si simple comme ça. Et puis, quand la vie continue, je ne vais pas tout vous détailler, mais il y a quand même quelques étapes importantes. L'entrée en classe du premier, mais c'est une affaire d'État, l'entrée en classe du premier. Regardez ce qui se passe dans les écoles maternelles. Le papa, il la maman, soit l'enfant, il s'en fout complètement, mais les parents, ils sont dans un état d'émotion extraordinaire. Pourquoi? Parce que ça vient réveiller toute leur propre scolarité. Et tous, nous avons subi un tas de choses dans la scolarité, des choses bénéfiques, des choses douloureuses, etc. Tout ça sans qu'on s'en rende compte et réveillé. Donc l'entrée du premier enfant, c'est un choc violent pour les parents. Et je continue, je ne vais pas faire tout faire, mais tous les petits événements de vie des enfants, chacun des événements de vie de l'enfant vient résonner sur chacun des parents et donc modifier quelque chose, or qu'ils sont toujours en train de chercher à galoper derrière leur équilibre tous les deux. Un point clé, l'adolescence des enfants. L'adolescence d'un enfant, ça vient réveiller notre propre adolescence et tout ce qui s'est mal passé dans notre propre adolescence. C'est un choc pour les parents, l'adolescence de l'enfant. Ce n'est pas un choc pour l'enfant, c'est un choc pour les parents. L'enfant, lui, a son propre cheminement, il la passe bien. Mais les parents, non, ils ont passé l'âge de l'adolescence. Donc on fait revivre ce choc. L'autonomie des enfants, puisqu'on en parle, on passe sa vie à les éduquer, ça y est, il devient autonome, il devient 20, et il vous dit, bah, maintenant je me tire, je vais vivre ailleurs. Seulement, on pourrait commencer à en profiter. Non, il faut qu'on apprenne à vivre sans lui maintenant. Et tous ils vont partir comme ça. C'est un changement d'équilibre encore. Elle est à peine habituée à son départ qu'elle revient. Mais cette fois-ci, il y a un grand barbu derrière elle. Alors là, c'est pas du tout le mec que vous aviez prévu. Hein. Moi, quand j'ai marié mes filles, je sais pas pourquoi, je m'étais imaginé qu'elles aient épousé des espèces de demi-dieux, des types extraordinaires. Elles ont ramené des êtres humains incompréhensibles. J'en aurais choisi aucun, moi. Par contre, je les ai tous accueillis comme si c'était mes enfants. Aucun d'eux ne m'a considéré comme son père. Mais oui, c'est des chocs, tout ça. C'est pas si évident. Et pendant ce temps-là, je suis toujours en train de chercher mon équilibre avec ma femme. Et là, maintenant, à 38 ans de mariage, ça y est, depuis 7 ans, la dernière nous a quittés. On se retrouve comme deux imbéciles face à face, ça fait 38 ans qu'on attend ça, et on ne sait plus comment faire. Et là aussi, il y a tout un équilibre à modifier. Et puis je continue, il y a toute la vie de grands-parents, etc. Et puis il y a l'arrivée dans l'âge avancé, ou avec les lacunes de l'âge avancé, etc. Là aussi, il y a des équilibres à modifier. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? c'est que cette vie conjugale, du fait de l'enfant, c'est un chamboulement d'équilibre permanent. L'enfant, parce qu'il est dans une progression, parce qu'il passe des étapes sans arrêt, vient sans arrêt modifier l'équilibre de ses parents. C'est-à-dire que l'équilibre conjugal, c'est un équilibre dynamique. Or, si on n'est pas souple, on ne peut pas encaisser ce dynamisme. Si on n'est pas souple, on va tendance à rigidifier les choses à un moment donné. Sauf que la vie continue. Et si on est rigide, à un moment donné, on va passer à côté des étapes. Et là, c'est très intéressant, dans mes thérapies conjugales, de voir à quel moment les choses se sont détériorées. À quel moment quelque chose s'est rigidifié dans le couple, qui n'a pas pu encaisser les changements, qui n'a pas pu s'adapter aux changements. Je voudrais faire 4 remarques maintenant. Première remarque, le divorce. Le divorce marque l'échec de la vie conjugale, mais marque aussi 2 échecs personnels. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que chacune des personnes voulait résoudre quelque chose avec l'autre, n'a pas réussi. Donc, échec conjugal, mais échec personnel, double échec personnel également. Le divorce montre à l'évidence que une ou plusieurs étapes de la vie conjugale n'ont pas pu être surmontées, qu'il y a donc quelque chose qui s'est figé dans ce couple. Je constate dans toutes les thérapies conjugales que j'ai faites que ce n'est jamais parce que les personnes ne sont pas faites l'une pour l'autre, c'est parce qu'elles se sont figées, elles ont perdu leur souplesse. C'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, on constate, les personnes qui divorcent se remarient, et qu'est-ce qu'on voit dans les remariages? Le taux de divorce est encore supérieur. Vous savez que premier mariage, alors mes chiffres datent un petit peu, ils datent de 2005, mais je crois pas que ça ait beaucoup changé depuis. En 2005, 45% de divorce dans les premiers mariages, 65% dans le deuxième mariage, 80% dans le troisième, après on compte plus, on est dans une instabilité chronique. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas résolu dans le premier, parce qu'on n'a pas eu assez de souplesse pour le résoudre, eh ben on le rejoue dans le second. Et comme on n'a toujours pas de souplesse, parce qu'on n'a pas su surmonter l'obstacle, il se repasse la même chose. Et puis dans le troisième, etc. C'est-à-dire que je pense, moi, que personnellement, qu'à 97% des cas, le divorce n'est jamais la bonne solution. Et par ailleurs, ces chiffres que je vous donne, la 65% de divorce dans le second mariage, ne prennent pas du tout en compte le nombre de personnes qui se résignent dans ce second mariage, disant bah, « si cette fois-ci ça marche pas, c'est que c'est moi qui ne dois pas aller alors ». Et du coup, qui ne divorce pas une deuxième fois, mais par contre, mettre en œuvre quelque chose de très dépressif en elle-même. Deuxième remarque, la vie célibataire. Moi, je me suis marié jeune, j'avais 23 ans, et au bout de quelques temps, je voyais mes copains qui menaient belle vie, qui draguaient des jolies filles, qui faisaient un tas de trucs, et puis moi, j'étais toujours avec la même. Je les enviais un peu. Je ne le répétais pas à ma femme, mais c'est vrai que je les enviais un peu. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que mes pauvres camarades répétaient inlassablement le même schéma, avec les mêmes échecs, aux mêmes endroits, parce que la vie célibataire, une fois qu'on a conquis son autonomie, est une vie qui est répétitive. On peut enchaîner des aventures amoureuses si on veut, elles vont toutes se conclure de la même façon, ça va toutes foirer au même moment. À l'inverse de la vie conjugale, qui elle nous met dans une tonicité, nous oblige à faire des choses totalement différentes, parce que c'est l'enfant qui donne le rythme. Et donc ça me semble intéressant de souligner cette richesse de la vie conjugale par rapport à la vie célibataire. Je dis pourquoi, mais est-ce que nous sommes dans une culture qui met en avant l'individualisme et qui met en avant le célibat. Et je pense que c'est une erreur. On s'épanouit beaucoup plus dans le mariage parce que, je veux dire, on est conduit à beaucoup de souplesse, on est conduit à beaucoup de remaniements. Ces pays, je crois, qui disaient les aventuriers modernes sont les pères de familles nombreuses. Oui, le mariage est une véritable aventure qui va demander énormément d'adaptabilité. Or que la vie seule, c'est une vie un peu stéréotypée, un petit peu ankylosée. Vous avez compris que le mariage, c'est ce qui nous sort de notre prison intérieure, de notre prison personnelle, pour effectuer à deux cette grande œuvre qui est la fondation d'une famille. Et que faisant cette œuvre qui est la fondation d'une famille et la faisant au mieux, cela fait appel à des ressorts en nous qui nous obligent à nous épanouir individuellement et donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ce qui fait que la vie conjugale est vraiment un chemin de sainteté. Et moi, je vous remercie de m'avoir écouté.